21h-22h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine, excusez-moi, sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, la dernière semaine du mondial avant les vacances pour certains. Mais pour nous, on sera ensemble tout au long de la semaine, du lundi au vendredi de 21h-22h et le samedi 18h-20h. À travers cette émission, nous verrons l'actu football avec vous, chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM. Nous irons à Saint-Pétersbourg à J-1 pour la demi-finale tant attendue France-Belgique. Et l'autre demi-finale, on l'oublie pas, avec la Croatie et l'Angleterre. N'oubliez pas, on vous fait gagner le maillot de l'équipe de France avec le hashtag TimeFoot en followant le compte officiel de l'émission. Et le standard, il est à vous, au 01 53 48 3000. Ce soir avec moi, durant cette émission, on accueillera, allez, on prend l'habitude, c'est Marion Aidalo, journaliste sportive. Comment ça va, Marion?
Ça va très bien, bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Elle ensoleille ce studio de Beurre FM. Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, il est avec nous aussi ce soir.
Salut Bilal, bonsoir à tous les auditeurs, et je vous ai ramené soleil aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai. Pour la semaine?
Pour la semaine, bien sûr, bien entendu.
On espère. Pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, Yad Akaski des Celtips sur Twitter. Comment ça va, Yad?
Ça va Bilal et toi? Bonsoir.
Tu vas bien? Super plaisir de t'avoir. On a un membre enfin des Celtips. On n'est que des Celtips ce soir, non, mis à part la ravissante Marion. On est Karim Baldé. Vous aurez reconnu son fameux sourire, journaliste chez TV5 Monde. Comment ça va, Karim?
Ça va super, bonsoir à tous.
Et Tony Nocetti, coach U19 féminine au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il a vu Gianluigi Buffon aujourd'hui.
Ah non, j'ai pas l'occasion de le voir, mais bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe.
On démarre cette émission avec justement cette actualité football planétaire.
Time Foot, l'analyse.
Tant d'analyses dans cette émission durant une heure. Qui est la révélation de ce mondial pour le moment? On a parlé d'Ante Rebic qui a 24 ans et déjà 6 clubs dans sa carrière. On t'écoute, Marion.
Ouais. Qui est la révélation de ce mondial?
Ouais. Mis à part ce jeune.
Je pense Kylian Mbappé. C'est plus qu'une révélation, c'est une consécration. C'est-à-dire qu'on savait qu'il était capable de beaucoup de choses. Mais même si le chemin devait s'arrêter demain pour la France, je pense qu'il a marqué les esprits. C'est quand même un garçon qui a reçu les félicitations de toute la planète football, de Pelé, de tout le monde. Donc on dit qu'il y a du Ronaldo en lui, Ronaldo le Brésilien. On dit que il est sans doute le prochain Ballon d'or, beaucoup le pensent, le disent. Dernièrement, Eden Hazard l'a dit également. Donc pour moi, c'est la révélation de ce mondial, bien sûr, bien sûr.
Ouais, carrément, t'écoute sur Kylian Mbappé et même Rebic.
Oui, alors sur Kylian Mbappé, je suis entièrement d'accord avec moi. Alors,
futur Ballon d'or, peut-être.
Oui, futur Ballon d'or, on verra ça après le mondial et ça dépendra bien sûr de l'issue de cette Coupe du Monde, sachant qu'il était quand même sur le podium, hein, si je ne me trompe pas. Il était bien classé dans top 5 de tête, je vois même deux qui me fait des signes, ouais, effectivement. Il me fait des signes en même temps que je parle, mais c'est bien de me corriger.
Top 10,
voilà. Voilà, top 10 en tout cas, ça c'est sûr. Alors, moi sur la révélation du mondial, je vais faire un petit aparté. Si je devrais donner ma révélation du mondial, ce serait plutôt Jordan Pickford quand même.
Ouais, on va en parler justement. Jordan Pickford,
but.
C'est ça.
Vu les dernières prestations anglaises dans les grandes compétitions et les boulettes des gardiens anglais comme Joe Hart à l'Euro, de retrouver un vrai gardien au meilleur moment, c'est-à-dire dans les matchs à élimination directe, pour moi ça a changé la face de ce mondial et ça permet à une équipe quand même talentueuse mais pas non plus extraordinaire d'aller au moins jusqu'en demi-finale.
Et Yad,
Je vais rebondir sur ce que dit Karim sur Pickford.
Ouais.
C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un gardien anglais vu la réputation assez dure qu'ils ont, et le point sur lequel je voulais insister, c'est sur son jeu au pied. C'est un gardien qui a une très très bonne relance et qui est assez doué pour pouvoir alerter de manière très efficace les attaquants devant. Après, si je devais aussi parler d'une autre révélation, je sais pas si ce que vous en pensez.
On va voir.
Mais Lucas Hernandez.
Hernandez pour toi.
Inconnu de peut-être du grand public.
Eh ben jamais pas voir, non.
C'est un peu la même chose, mais je pense que en fait Hernandez apporte, on l'a vu contre l'Uruguay par exemple, le caractère qu'il a fallu à cette équipe pour surpasser, pour se qualifier contre l'Uruguay. C'est un joueur très hargneux qui amène beaucoup d'envie et c'est ce qui manquait généralement en France, cette notion de caractère. Donc Hernandez, c'est mon petit coup de cœur, ouais.
Ouais, Hernandez, le caractère, Marion. On n'a peut-être pas eu ce caractère-là auparavant à travers la sélection française. Et maintenant, oui. Avec des gars comme Hernandez, ouais.
Bah, ce sont des surprises, hein, Pavard et Hernandez, c'est sûr, parce qu'on pensait vraiment avoir un problème à gauche et à droite, enfin pour les arrières gauche et les arrières droits. On se disait qu'il y avait pénurie, on pensait à Debuchy avant le début du mondial, on pensait à des gens qui étaient quand même beaucoup moins bons. Donc ça, ce sont effectivement des révélations, là où je ne suis pas du tout d'accord, hein, pardon messieurs, mais oui. C'est le gardien anglais. Le gardien anglais, il est très sympa, il a une bonne gueule d'anglais, voilà. On est en Angleterre, c'est bon, on y est. Non mais on y est, voilà, on est en Angleterre dans tout ce que
dans
tout ce qu'on peut même aimer dans l'Angleterre, c'est-à-dire il fait penser à Rooney, il a voilà ça
le mais, gars qui mais le mec qui... dans les pubs quoi.
Non mais exactement. Mais en dehors de sa ligne, faudra voir quoi. Parce que moi je trouve que je suis pas du tout sûre qu'il est que ce soit un futur Neuer ou un futur Buffon.
C'est pas ce qu'on a dit.
Non mais révélation, pardonnez-moi, moi je vous parle d'un futur Ballon d'Or, vous me parlez du gardien anglais. Attendez, quand même.
Révélation, c'est
ce qu'on a dit, messieurs.
Non mais du mondial, pour le mondial.
C'est quelqu'un qui surprend et qui joue bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer de lui.
Ah
donc
oui, c'est ça une révélation, d'accord. Voilà. Ok.
Félix Nocetti, justement. On a un coach avec nous ce soir, coach des U19.
Je rejoins un petit peu Marion sur justement cet élément qui se révèle aujourd'hui. Je tiens à parler de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est
le gamin
jeune.
De Bondy.
Il a à peine 19 ans, il vient de les avoir, il me semble. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel, surtout lors d'une Coupe du Monde. Faut pas l'oublier. En deux ans, là, il a, entre Monaco et le Paris Saint-Germain, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que ce gamin-là, s'il reste avec la maturité, l'état d'esprit qu'il a actuellement et qu'il déborde pas...
Ça peut faire mal.
Comme peut faire d'autres joueurs après autant de médias autour de lui. S'il est capable de rester, on va dire, avec un esprit sain, il pourra aller très très loin, ce gamin. Vraiment.
Oui. Voilà. Mamadou, le gamin de Bondy, on sait que tu le connais bien.
Bah, je vais être complètement...
Comme Nabil Zendik aussi.
Je vais être complètement chauvin. Je vote 9-3 d'abord et ensuite je vote Kylian Mbappé. Mais de toute manière, pour moi... C'est quelqu'un qui ne surprend plus. Et pourtant, on a émis beaucoup de doutes depuis son arrivée, son éclosion à Monaco. À chaque fois, c'est.
Il y a des d'accord
et
avec
toi. Il ne faut pas trop l'encenser parce qu'il ne va peut-être pas passer. Et à chaque fois, il répond présent. Il est tracé. La seule chose qui peut lui arriver aujourd'hui, c'est une grosse blessure parce que je pense que. En termes de maturité, en termes de passage, temps de passage, il a été surclassé, on le sait, dans toutes les catégories d'âge de jeunes. Mais à chaque fois, il y a toujours une petite suspicion quant à son éclosion ou à son explosion. Et pour moi, il a déjà explosé. Et c'est vraiment la révélation. Et il éclipse tout le reste. Les gardiens, Pickford, Hernandez et par contre Pavard, même Hernandez et Pavard aussi, qui sont surprenants parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là. Et pour reprendre ton analyse tout à l'heure, effectivement, c'est des caractéristiques qu'on ne retrouvait pas effectivement en équipe de France, mis à part à une époque quand on voyait des Dimeco, des Lizarazu, des joueurs très très durs, un peu à la sud-américaine. Et aujourd'hui, l'équipe de France, elle arrive à pouvoir doublé ces postes-là avec des Sidi Bé d'un côté. Mendy, il a ses caractéristiques physiques aussi. Mais on peut compter sur des arrières, on va dire, de métier avec ce côté dur qu'on n'avait pas en équipe de France. C'est ce qui faisait un peu peur avant ce mondial. Mais pour moi, la révélation, la grosse révélation, c'est Kylian Mbappé.
Plus de facilité peut-être, Karim, pour ces joueurs. On t'écoute.
Alors, je vais me défendre un petit peu sur ma révélation Pickford une seconde Pickford, et je vais revenir sur Mbappé ensuite. Si j'ai mis Pickford par rapport à Mbappé, c'est parce que Mbappé, c'est un joueur au gros potentiel. Et si tous ici autour de cette table, on sait à quel point il est fort, on suit bien sûr le Paris Saint-Germain, on l'avait vu éclore à Monaco. Donc finalement, c'est une demi-surprise, même si bien sûr, pour passer le cap de vraies et grandes prestations en Coupe du Monde, c'est pas forcément évident. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais mis Pickford pour moi qui partait de beaucoup plus bas et qui arrive un petit peu plus haut. Mais pour revenir sur le
précocité et talent des jeunes Français.
Précocité, talent, et surtout sur
Mamadou.
Ouais, et surtout sur la maturité, parce que pour aller très très souvent au Parc des Princes, et notamment recueillir les réactions des joueurs dans la zone mixte après le match,
c'est vrai
que dans son discours, notamment à son âge, moi je me dis à son âge, jamais je parlerai comme ça, aussi posément, aussi calmement.
On est bluffé, Karim.
Et avec une belle analyse aussi. C'est vrai qu'on est bluffé quand on le voit, on l'entend parler, on est bluffé.
Excuse-moi, Karim, il ne faut pas oublier une chose. En fait, c'est un garçon qui a été. On lui a décelé un diagnostic de précocité, mais pas précocité au niveau football, précocité comme quelqu'un qui est en avance sur son âge. Donc, forcément, mis en relief avec le foot, c'est quelqu'un qui normalement s'il n'avait pas eu de parcours de foot, il serait surclassé. La manière de s'exprimer aussi, et c'est tout à fait normal parce que c'est un garçon précoce, pas seulement au niveau du foot, mais précoce tout simplement.
Marion, Kylian
Mbappé, pour toi. Il y a quelque chose effectivement d'un petit peu génial, en tout cas qui a un petit peu de génie, en tout cas ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on fait l'erreur de dire oui, non mais attendons le prochain match, oui mais attendons, parce qu'à chaque fois on est étonné, on est impressionné, on se dit mais c'est pas possible. Et en deux ans, il a prouvé, voilà, il a été champion de France deux fois, il a été capable d'aller de mener Monaco, faut bien le dire, en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, là il est, on a de la chance de l'avoir en France, voilà, on a une chance extraordinaire. on a de la chance qu'il soit pas brésilien, anglais.
Yad, justement, on a la chance qu'il y a Mbappé, grand joueur.
Après, personne ne doute du potentiel de ce joueur. Après, pour revenir sur le sur l'appellation de révélation, voilà Mbappé, Mbappé, là où on aurait pu dire que c'était la révélation, c'était peut-être la révélation de la Ligue des Champions 2016-2017, voire de la saison 2016-2017, mais il a tellement banalisé vite le fait de marquer en Ligue des Champions dans les phases à élimination directe que j'étais à demi surpris, comme disait Karim. Donc pour moi, une révélation, c'est quelqu'un qu'on n'attendait vraiment pas et qui a montré un niveau bien supérieur à ce qu'on lui prêtait au départ. Donc c'est la petite nuance entre Mbappé, qui est bien sûr un ovni, et de futurs peut-être grands joueurs comme Ford, Hernandez ou Pavard.
Oui, mis à part Kylian Mbappé, d'autres peut-être joueurs, d'autres révélations.
Lequel, Tony? Qu'on a un petit peu oublié, même s'il est, il est déjà connu, mais je pense qu'il a vraiment été au-dessus du lot contre le Brésil, c'est Eden Hazard, qui m'a vraiment impressionné. Pour moi, c'est le Brésilien du match.
Lui, il nous a pas oublié en tout cas. Il pense même à nous, je crois, en ce moment. T'inquiète pas.
Et sincèrement, Eden Hazard, bon bah, il a pas l'âge d'Mbappé, certes, il a déjà une expérience derrière lui, mais par contre, derrière ça, il a eu un coffre pendant ce match qui était extraordinaire, quoi. C'était du top.
Un mot sur Eden Hazard avant de revenir sur le match de demain qui opposera la France à la Belgique. Marion, il pourrait faire très 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 mal, Eden Hazard.
Oui, il pourrait faire très très mal, mais on l'avait pas oublié quand même. On l'avait pas oublié, Eden Hazard. Pour ceux qui aiment la Première Ligue, et j'en fais partie, et moi j'adore la Première Ligue, c'est sans doute le championnat que j'aime le plus. Eden Hazard, c'est une chance pour la Première Ligue, c'est une chance pour la Belgique. Il a toujours été exceptionnel. Il a eu aussi la précocité aussi quand il était au LOSC. Il aurait pu partir un an plus tôt du LOSC. Bon, il a préféré attendre et finalement il a pas mal fait. Alors c'est vrai que comme il n'a pas gagné la Ligue des Champions par exemple avec Chelsea, comme effectivement la Première Ligue est moins visible depuis que c'est SFR Sport qui passe la Première Ligue, on est nombreux à moins voir effectivement la Première Ligue. Mais Eden Hazard, c'est une merveille. Et puis il a eu aussi la chance et la malchance à la fois avec Mourinho. On sait jamais si c'est une chance ou une malchance, c'est tout à la fois de ne pas pouvoir jouer la Ligue des Champions avec Chelsea. Donc c'est vrai qu'on l'a moins vu, c'est vrai, mais en attendant il reste l'un des 10 meilleurs joueurs du monde. Il a en lui il est technique, il est physique, il sait se projeter vers l'avant, il est, voilà, c'est pas un tout droit, c'est pas un Lukaku, c'est dur ce que je dis mais c'est ce que je pense, et voilà, il est hyper technique, donc voilà, moi c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde, là il n'y a pas de doute.
Karim,
enfin on l'a un peu moins vu, je vais dans le sens de Tony, on l'a un peu moins vu parce que Chelsea aussi a été moins en vue aussi.
C'est ce que je disais, ils n'ont pas joué avec des champions à cause de Mourinho ou
mais pour revenir sur le, par exemple, son positionnement à Chelsea cette année, enfin lors de la saison 2017-2018 pour être le plus clair possible, c'est vrai qu'il n'a pas été à son aise, et puis les difficultés dans le vestiaire avec Conte, etc., ça n'a pas aidé, tous les feuilletons autour de Conte, Eden Hazard, les dissensions supposées ou avérées, je ne sais pas, ça a compliqué, ça a terni sa saison malheureusement. Donc de le voir arriver à la Coupe du Monde et là d'être un chef d'équipe, ou du moins un chef de mode offensif pour la Belgique, c'est à la fois c'est rassurant, et puis ça montre aussi sa force de caractère, tout simplement,
puis ça montre...
parce qu'on sait que c'est un grand joueur, mais de prouver au meilleur moment, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à classer les grands joueurs, c'est lorsqu'ils brillent avec leur sélection nationale.
Yad, le joueur, Eden Hazard.
D'accord avec Tony pour le coup, parce que Hazard, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a toujours eu un certain doute pour sa capacité à faire la différence dans les grands matchs en Ligue des Champions. Bon, en Coupe du Monde, on avait vu qu'en 2014, c'était pas exceptionnel. Et là, j'ai l'impression que dans cette Coupe du Monde, et à partir des huitièmes de finale, il a pleinement assumé son brassard, parce que c'est lui le capitaine de la Belgique, et que peut-être que là, cette Coupe du Monde va lui permettre de franchir un cap, peut-être de changer de club si Conte effectue sa dernière année de contrat à Chelsea. Donc là, j'espère, parce que pour avoir vu le match contre le Japon et le Brésil, c'était le meilleur joueur à chaque fois. Même s'il n'a pas eu de stats contre le Japon, c'était le seul qui essayait de créer du danger dans un match très compliqué. Donc j'espère pour lui qu'il va franchir un cap, parce que les grands joueurs brillent dans les grands matchs, et contre le Brésil, ça a été le cas, donc j'espère qu'il va continuer sur cette lancée.
Ouais, pour Yad, et nous on n'espère pas demain qu'il franchira ce cap-là. Mamadou, justement, le cas Eden Hazard.
Au-delà du cap franchi, j'aime bien utiliser...
Tant aimé par Zidane.
Oui, j'aime bien. Bah oui, j'allais le relever, qui est plus suivi par le Real de Madrid depuis maintenant un petit moment, donc c'est un signe qui ne trompe pas. Et au-delà du cap passé, moi j'aime bien utiliser le terme de porter la cape, et je crois, comme Mbappé l'a fait, Hazard il a endossé la cape. Et ça y est, on lui donne des responsabilités, on lui tend des responsabilités depuis un moment. Là, il a porté le costume. Là, il a le costard. Et c'est lui qui porte, il la porte pas à bout de bras parce qu'il est équipé. Il y a du monde autour de lui. De Bruyne, je vais pas tous les citer. Et là, vraiment, il a pris en main son équipe. Et il montre que c'est lui le patron. Il impose son rythme. Les Anglais appellent ça un top player. Les Italiens appellent ça un joueur furé classe. Et là, ouais. Je pense que vraiment, il est au top. Il est au top. Lui aussi, frappé de diagnostic de précocité, comme Mbappé, parce qu'il est arrivé très tôt. Et il jouait, il a été très bien protégé à Lille. Ils l'ont couvé pour qu'il puisse éclore au bon moment. Et aujourd'hui, je pense qu'il arrive à maturité. Il donne la pleine mesure de son talent aujourd'hui.
Ouais, carrément. T'écoutes sur ces joueurs qu'on prend pas des fois au sérieux, les joueurs belges. Pas moi qui le dis, nombre de bookmakers, ouais, c'est vrai. Non, mais à l'approche de ce demi-finale, on a l'impression que, en tout cas, nous là-bas, ils nous attendent de pied ferme. Ça, faut le savoir. Et il faut le dire aussi sur l'antenne de Beurre FM que du côté de Bruxelles et même d'autres villes en Belgique, voilà qu'on se dit que la France va prendre cher, quoi. Demain contre. Carrément. Les supporters belges aimeraient justement faire comprendre aux Français que la nation belge est une nation football, quoi.
Mais c'est une nation de football, mais alors pour
on n'entend pas trop dans les rues françaises.
Sur ta question, tu dis que oui, souvent les Français. Pas un complexe, mais un peu un sentiment de supériorité vis-à-vis de la Belgique, historiquement.
Il y est, c'est pas moi qui le dis.
Politiquement aussi.
Vis-à-vis de la Belgique, oui.
C'est vrai que pendant longtemps, même avec cette génération dorée, par exemple, on l'avait vu à l'Euro 2016 ou même au Mondial 2014, on disait, il y a plein de bons joueurs, mais c'est pas une équipe. Donc du coup, on regardait ça quand même un peu de loin en disant, ouf, là, à l'Euro, ils étaient à domicile à Lille, on peut le dire, et ils se sont fait sortir par le Pays de Galles. Bon, c'est quand même pas top. Mais entre-temps, la génération a mûri et tous ces joueurs-là qu'on citait, De Bruyne, Lukaku, on peut citer Mertens et d'autres. Voilà, ils sont tous arrivés à maturité cette année et surtout le fait que Hazard ait pris les responsabilités, il a porté la cape comme disait Mamadou à l'instant, ça change tout. Et puis aussi, on oublie de signaler Roberto Martinez parce que Wilmot était là, on avait dit qu'il faisait pas eu bon travail, mais en tout cas avec Martinez, il a réussi à trouver les ressources tactiques et on l'a vu contre le Japon où justement les deux changements ont porté ses fruits pendant la rencontre et on l'avait suivi ici même d'ailleurs dans Time Foot. Ce match à rebondissement, c'est vrai que Roberto Martinez apporte des solutions tactiques qu'on n'imaginait pas, même avant le mondial d'ailleurs. Et ce qui fait que tous ces joueurs-là, offensivement, ils sont tous malléables. On peut les mettre dans différentes positions et ça peut déstabiliser l'adversaire. Et ça, c'est un pas franchi en tout cas par rapport à la Belgique de 2016.
Mamadou, avant la pause.
On a souvent tendance à ne pas relativiser en fait l'histoire d'une équipe, mais en fait même Martinez a remercié le travail de Wilmot.
Oui, il
l'a remercié.
De presse,
donc c'est quand même rare de voir un entraîneur qui remercie personne qui l'a remplacé. Pourquoi? La Belgique arrive à maturité aujourd'hui, elle arrive à maturité en même temps qu'Eden Hazard et tous ces joueurs là. Donc tout ce travail qui a été fait et cette forme de condescendance qu'on avait vis-à-vis de l'équipe de Belgique, on la voyait un petit peu faible. Pas arriver dans le money time, pas être bonne et tout.
La fausse bonne idée, quoi.
Voilà, mais je pense que les joueurs ont progressé et ils arrivent effectivement aujourd'hui à maturité.
Mais aussi, on rappelle que la Belgique a fait tant de merveilles au football français, n'est-ce pas? Et je m'adresse là à Nabil Dressi qui doit nous écouter ce soir. Eh oui, un soir du 26 mai 93, c'était encore un Belge qui était à la tête de cette équipe faussaire.
Vraiment.
Voilà, ça faut juste le rappeler. Voilà. Attention aux Belges. On se retrouve de suite après une première page de pub et on parlera justement à J-2 de Croatie-Angleterre. À de suite.
Time Foot revient dans un instant. Beurre FM 21h-22h Time Foot avec Bilal Nenman,
je pense. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM 21h20, je vous le rappelle, on n'oublie pas que vous pouvez remporter le maillot de l'équipe de France avec le hashtag Time Foot en followant le compte officiel de l'émission, aussi le standard, il est à vous jusqu'à 22h, le 01 53 48 3000. Ce soir, je le rappelle, avec moi durant cette émission, on a Marion Hédalo, journaliste sportif, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Yad Kaski des Celtics Tips sur Twitter, Karim Baldé, journaliste chez TV5 Monde, et aussi Tony Nocetti, coach des U19 féminines au Paris Saint-Germain. Encore, on va dérouler là, on n'arrête pas. On a un petit peu parlé de ce Belgique-France, et on va parler cette fois-ci de Croatie-Angleterre à J-2.
Time Foot. L'analyse.
L'Angleterre a-t-elle montré plus de maîtrise que les Croates dans cette phase finale? On attend tant de cette sélection des Three Lions, surtout David Beckham. Pour toi, Karim.
Bah, pour moi, l'Angleterre, déjà, je m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Faut quand même, honnêtement, et je pense que personne
n'aurait dit. Tu nous l'as dit lors des précédentes émissions.
Oui, exactement. Mais personne n'attendait l'Angleterre à ce niveau-là. Elle a eu un parcours plutôt favorable. Elle a aussi montré de la solidité et la maîtrise face à la Suède lors du quart de finale. Après, les Suédois étaient aussi assez fatigués, donc les Anglais ils ont pu quand même gérer la deuxième période, et même Southgate laissait sous-entendre que dans leur plan de jeu un peu conservateur entre guillemets, voilà, le but était de pas trop se fatiguer en vue de la demi-finale qui se profilait. Mais c'est vrai que l'Angleterre, en tout cas, même si on la voyait pas arriver là, maintenant qu'elle est là, on peut dire que cette jeune génération, avec des joueurs qui ont gagné des trophées aussi chez les jeunes, et Southgate qui était un coach aussi, qui était le coach des espoirs auparavant, voilà, elle arrive plutôt que prévu finalement à s'exprimer, parce qu'on pensait plutôt pour 2020, 2022 éventuellement, et là elle est là dès cette année 2018, donc à voir.
Ouais, les
à voir.
À voir pour toi, Karim. Marion, ces Anglais, ils font leur petit train de route, quoi.
Ouais, ils font leur oui, et puis encore une fois, je trouve qu'on a beaucoup méprisé la première ligue ces dernières années. Bon, en attendant, en demi, il y a la Belgique qui est quand même bien représentée en première ligue, il y a l'Angleterre. Donc plutôt que de toujours critiquer Manchester United, Tottenham, il y a un vrai Big Four. On voit que il est difficile de gagner la première ligue. Eh bien, ces difficultés qui vivent chaque année tous, eh bien, ça fait quand même qu'on a oublié qu'il y avait quand même des joueurs en Angleterre, qu'il y avait quand même un niveau un peu plus haut que ce qu'on voyait. Alors, je suis pas en train de dire que Kane est le meilleur joueur du monde, parce que c'est pas le cas, mais il y a un collectif intéressant, il y a des petits jeunes comme Rashford, il y a des choses. Moi, je trouve qu'il y a le fameux gardien, bien sûr, fort, merveilleux, hein. Voilà. Il y a, non mais en tout cas, il joue pour Kane. Je pense qu'il y a des supporters exceptionnels. C'est le pays du football. Donc, même si on les attendait pas là, étant donné que les autres ont décidé de faire une mauvaise Coupe du Monde, ça laisse au moins de la place pour d'autres. Et il y a toujours des belles surprises. Je pense quand même que l'Angleterre peut aller, non pas au bout, mais jouer la finale, oui.
Jouer la finale pour Marion Hidalgo, pour Iyad Casquier. On l'écoute. Les Anglais.
Pour les Anglais, déjà, on parlait de première ligue. Il y a 40 joueurs de première ligue qui sont représentés dans ces demi-finales. C'est
incroyable.
C'est le mot.
Que les autres championnats, il y a la Ligue 1 et la Liga qui suit. Mais sinon, pour les Anglais, je pense qu'ils ont un avantage qui est pas des moindres. C'est le fait que les Croates aient joué deux fois les prolongations et soient allés deux fois au tir au but. Alors oui, ça les a préparés mentalement, mais physiquement, je pense qu'ils vont arriver un peu épuisés, alors que les Anglais ont eu le temps de faire tourner contre la Belgique lors du troisième match, étant donné que s'ils terminaient deuxième, ils avaient le tableau le plus favorable. Après, ils ont eu un tableau favorable, mais tout comme la Croatie, qui m'a assez déçu après les phases de poule.
La Croatie t'a déçu, ouais.
Ouais, après les phases de poule, un bon match face à l'Argentine, pas non plus exceptionnel, parce que les Argentins ont limite donné des buts, mais une phase de poule pleinement maîtrisée et des phases éliminatoires, enfin des phases finales un peu en dents de scie. Donc deux équipes qui se valent quand même.
La transition est parfaite. La Croatie, que beaucoup voyaient comme favori pour après les poules justement, déçoit-elle dans cette phase finale?
Mais elle peut pas aller au bout, la Croatie. Ouais. Enfin, il y a que Modric.
On l'a donné quand même.
Non, mais il y a Modric, Rakitic, Mandzukic et Subasic. Quatre joueurs.
Ouais, Subasic. Non, mais pour toi, Marion. Alors, on n'est pas d'accord avec Mamadou et peut-être avec toi. Alors, la réaction, bien sûr, on l'a terminé.
Il faut que ce soit un minimum homogène. Une ligne de défense intéressante, des milieux intéressants. Là, ils les ont. Et une attaque intéressante. On ne peut pas tout faire sur deux ou trois joueurs. C'est ce qui nous faisait peur avec l'Uruguay, qui a trois joueurs. Il faut quand même arrêter de dire, sous prétexte qu'il y a deux, trois joueurs dans une équipe, ils peuvent aller au bout. Il faut que ce soit homogène. Aujourd'hui, c'est ou pour la Belgique ou pour la France.
Tony, réaction sur cette Croatie, cette sélection.
Avant de parler de la Croatie, je voulais juste faire un petit point sur l'Angleterre.
L'Angleterre. Alors, on te donne la parole.
Pour moi, c'est vraiment la surprise de cette Coupe du Monde. On ne les attendait vraiment pas. Sachant que Kamwenda est relativement jeune, c'est 26 ans. C'est une équipe qui a un attaquant quand même assez efficace, puisque bon, il est quand même à 6 buts, me semble. Meilleur buteur anglais, meilleur buteur du championnat de première ligue.
Ouais, le duel Modric-Harry Kane.
Et ce que j'ai ressenti en fait dans le jeu anglais, c'est que avant le jeu anglais était basé sur, comme on l'appelait avant, le Keegan Rush, donc la passe longue, jeu direct. Alors qu'aujourd'hui, on est plus sur sur un jeu qui s'appelle, alors moi je suis pas très fort en anglais pour l'exprimer, c'est le guy van move, c'est bien ça, c'est-à-dire donner, bouger, donc la passe courte. Et c'est vrai que dans le championnat anglais, avec l'arrivée des coachs donc comme Guardiola, Pochettino, qui eux sont des adeptes de ce jeu, on ressent comme dans cette équipe une autre manière de jouer, comme on l'avait pu le connaître auparavant en Angleterre. Et c'est vrai que bon bah quand on regarde l'effectif global de l'équipe d'Angleterre, il y a 9 joueurs qui sont issus de Tottenham et de Manchester City. Donc je pense que ça a eu un impact quand même sur le jeu anglais. Ça se ressent. Juste pour un petit mot après la Croatie. Comme le disait tout à l'heure notre ami, c'est que ils ont très bien démarré. C'était vraiment on a senti vraiment une solidité, une ossature, enfin, c'était vraiment mais les résultats ils parlent pour eux, ils ont 3 victoires en match de poule. Sauf qu'arrivant en match à élimination directe, c'est vrai que des matchs nuls. Donc ça prouve quelque part qu'il y a une baisse de régime, sachant que c'est une moyenne d'âge plus âgée, plutôt 28 ans. Donc ce match, à mon avis, va jouer entre l'expérience et le fait que l'Angleterre ait eu qu'une prolongation. C'était en 8e, il me semble. Ils ont joué 120 minutes. C'est bien ça? Alors que ils ont eu 2 prolongations.
Et c'est jamais arrivé qu'une équipe qui ait disputé 2 fois les prolongations et les tirs au but gagne la Coupe du Monde.
Voilà, donc sur le plan vraiment physique, avec une équipe plus âgée, peut-être que la Croatie.
Et Yann nous a donné sa réponse.
Un petit handicap.
Ouais. Ça veut dire que la Croatie se fera éliminer, quoi, par l'Angleterre.
Après, moi, si je peux différencier ce match-là des 2 autres. La Croatie a affronté un bloc très très bas contre le Danemark, une équipe très resserrée qui défendait de manière très dure. La Russie est une surprise, c'est une équipe qui, après le match contre l'Espagne, avait réussi sa Coupe du Monde, donc qui était totalement décomplexée, qui est revenue juste avant la séance des tirs au but. Alors que comme Tony disait tout à l'heure, l'Angleterre ne ferme pas le jeu, l'Angleterre va jouer, et les Croates seront sûrement beaucoup plus à l'aise pour à la fois... canaliser les Anglais avec une défense quand même assez solide, et ils auront de l'espace pour attaquer et mettre en place leur jeu. Donc je leur donnerais limite plus de facilité, en tout cas d'un point de vue technique, en occultant le fait qu'ils aient joué 2 prolongations face aux Anglais. Donc oui, la Croatie a toutes ses chances.
Et c'est pas mal ce que vient de dire là Mamaléo.
Moi je mettrais une prime à la maturité pour la Croatie, malgré le fait qu'effectivement ils aient laissé beaucoup de plumes, ils ont laissé de l'énergie sur les 2 derniers
matchs. Elle est toujours bien présente, cette sélection.
Je pense que malgré tout, ça va être un match qui va être serré, je pense. Enfin, j'imagine. Et
c'est vrai.
Ouais, mais je n'arrive pas à imaginer. Pour moi, l'Angleterre, l'Angleterre, c'est une surprise. Je les voyais arriver dans une phase de transition entre ce fameux kick and rush dont parlait tout de suite Tony, et l'équipe et surtout les générations qui arrivent derrière. Ils ont deux, trois générations qui arrivent derrière là. C'est exceptionnel, enfin, et ça joue. Et eux ont été formés vraiment avec ce jeu de basse courte et haute. Et je pensais que cette année, l'Angleterre arrivait en transition entre laisser un peu ce fameux kick and rush qu'on a connu, qui faisait un petit peu la fibre du jeu anglais, et là partir sur un jeu beaucoup plus basé sur de la possession, sur de la remise et de la passe. Donc je suis quand même surpris de les trouver là. Maintenant, je maintiens la prime à la maturité pour la Croatie. La fatigue arrivée en demi-finale, c'est des choses qu'on sent plus. On a des joueurs comme Modric, comme effectivement. Alors
Tony.
Je n'ai pas oublié ce qu'a dit Marion.
Ouais, Marion, parce que si vous voulez réagir justement après Marion.
Je vais la retoquer parce qu'elle a parlé, effectivement, il ne suffit pas d'avoir 4 joueurs, mais c'est quand même 4 joueurs qui sont 4 joueurs majeurs. On a le gardien de but.
Non, pas 4 joueurs majeurs. Il y a 2 joueurs majeurs. Rakitic, Modric, c'est ça les joueurs majeurs.
Je vais peut-être me reprendre, peut-être pas des joueurs majeurs, mais des joueurs essentiels. On a le gardien de but Subasic derrière. On a 2 milieux de terrain.
Mandzukic aussi.
Alors
Marion veut réagir.
On a quand même l'axe d'une équipe, de la colonne vertébrale d'une équipe. Donc je pense que ces joueurs-là, la Juve, le Real, Monaco pour dans une moindre mesure, c'est des joueurs qui savent gérer ce genre de situation. Non pas que les autres ne jouent pas dans des clubs majeurs, mais on a des joueurs qui arrivent à maîtriser certaines choses, qui vont souvent faire jouer l'expérience plus que le physique et peut-être plus la tête. Et c'est pour ça que je mets une prime à la Croatie.
Elle voulait réagir justement concernant cette sélection croate. On t'écoute, Marion. Mandzukic et Perisic, on les oublie, quoi.
Non, mais Mandzukic, c'est un très bon joueur, mais c'est pas ce que j'appelle un joueur majeur. Ouais. C'est-à-dire qu'il joue pas au Barça, il joue pas au Real, il joue pas au Bayern. Voilà, Mandzukic, ça peut être. Oui, il joue la Juve qui a pas été capable de gagner la Ligue des Champions 2 fois de suite. Et il faut pas oublier qu'il n'est pas un titulaire indiscutable à la Juve. Donc, même si j'aime beaucoup Mandzukic, qu'il a été capable de marquer contre le Real. bien sûr, il y a des choses qui sont très intéressantes chez ce joueur, et je dis pas que c'est un mauvais joueur, loin de là. Je suis juste en train de dire qu'on parle de joueurs majeurs. On parle de ceux qui vont être capables de gagner la Coupe du Monde. Je ne vois pas comment la Croatie, avec les joueurs d'aujourd'hui, peut gagner la Coupe du Monde. Il s'agit pas, là, si vous voulez, on est en train de penser à des équipes comme la France,
oui,
ou comme la Belgique,
ou
on pense
à la France.
À, bien sûr, où on pense à un joueur, deux joueurs, avec des faiblesses, trois joueurs. Mais là, on parle de Modric qui est exceptionnel, on parle de Rakitic qui est exceptionnel, et puis c'est tout. Subasic, moi j'aime beaucoup Subasic, c'est un joueur qu'on prend beaucoup de plaisir à regarder en Ligue 1,
oui,
mais on est tous d'accord déjà, il n'a pas fait une saison déjà avec Monaco exceptionnelle. Il fait une Coupe du Monde qui est pas mal, vraiment qui est pas mal, mais encore une fois, on ne peut pas mettre des espoirs de... Attention, c'est la Coupe du Monde, ça veut dire la meilleure équipe du monde. On n'est pas au niveau de la France de 98, de l'Italie de 2006, ou de l'Allemagne, ou de l'Espagne. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas que la Croatie ne peut pas aller en finale. Je dis que pour gagner la Coupe du Monde, c'est une toute autre histoire. Une toute autre histoire.
Mamadou, droit de réponse.
Si je reprends le raisonnement de
Marie,
je voulais effectivement savoir quels sont les joueurs majeurs. S'il n'y a pas de joueurs majeurs en Croatie, quels sont ces joueurs majeurs en équivalence dans l'équipe anglaise? Quels sont ces top players qui sont peut-être plus top players que pour être des top players dans l'équipe de Croatie? En équivalence, si on fait une balance.
La différence fondamentale, c'est que c'est homogène. L'équipe d'Angleterre a des joueurs qui jouent à Manchester United, à Tottenham, à Manchester City. C'est-à-dire des joueurs qui sont dans le Big Four. Je suis désolée, mais Croatie, il y a des Croates que je ne connais pas. Alors peut-être, messieurs, vous connaissez très bien la Croatie,
ouais,
et tous les joueurs exceptionnels là-dedans, vous suivez avec beaucoup d'envie, de plaisir, le championnat croate, moi pas.
Ouais.
Voilà. Donc pardon, moi je regarde un peu ça.
On termine
comme ça,
concernant.
Voilà, je regarde le football champagne, je suis désolée.
Cette demi-finale de mercredi.
Alors, champagne,
bien sûr.
Ah, bah d'accord. Alors vas-y, fais-moi le 11 de départ de la Croatie.
Je vais pas
te dire. Ah bah oui, parce que tu le connais pas. Parce que personne ne le connaît.
Il y a assez de poids en Croatie. Le contrepoids avec.
Tu les connais pas, les joueurs. Tu les connais pas, les joueurs.
Et Yann, on y va.
Pour revenir sur Mandzukic, Mandzukic n'est peut-être pas un joueur, majeur, n'est pas dans le
top
10. Il
a perdu deux fois la raison, Marion.
Mais c'est un joueur majeur pour la Croatie. C'est un joueur majeur pour la Croatie. Il a des capacités d'adaptation tactique exceptionnelles. Il est passé de buteur à l'Atletico à milieu gauche dans un 4-2-3-1 à la Juve sous Allegri. Voilà,
et ça gagne la Coupe du Monde,
on
ça
on a un mélange, mais ça peut au moins aller en finale.
Ouais.
Il y a pas besoin d'avoir
des la finale, c'est
finale,
tout quoi.
J'ai pas dit non,
il y a pas besoin d'avoir des
elle était d'accord,
finale,
en plus,
d'accord,
c'est vrai. D'accord, mais il y a pas besoin d'avoir des top joueurs à chaque poste. Ce qui compte aussi, c'est le système.
Ah bon,
on a un mélange.
Ah bon,
non, moi je
pas forcément.
Ah bon, l'Allemagne n'a pas gagné avec des top players? L'Espagne n'a pas gagné avec des top players?
Mais bien sûr, mais la Croatie,
la France 98, c'était des petits nazes qui jouaient au championnat croate.
Mais la Croatie, il y a quand même un monde.
Il
y a pas une énorme classe d'écart entre les équipes que tu as citées.
Entre la Croatie et
la
France
actuelle.
Je vais pas couper la parole à rien. Mais je trouve que les avis de Marion sont quand même un peu tranchés, qu'elle est légèrement extrémiste sur ce.
Oh là 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 là, mon colonel pas dans ce studio.
Mais si je peux rebondir, évidemment que
la. Tu te lâches, c'est pas bon.
Si la question est la France, si la France et la Belgique sont supérieures à la Croatie, évidemment. Évidemment que sur le papier et de ce que j'ai vu, évidemment. Mais ça n'empêche pas la Croatie d'aller en finale et de, pourquoi pas, sur un match, d'embêter, voire peut-être de gagner au bout du temps réglementaire, voire au pénalty. La Coupe du Monde, elle n'a pas besoin d'avoir des top players à chaque poste. Elle a un parfait mélange entre des joueurs comme Rebic, la révélation de Francfort, qui a fait gagner la Coupe d'Allemagne à son équipe cette année contre le Bayern Munich.
Non, mais c'est bien de rêver, messieurs, mais il y a un moment, il faut être.
Je rêve pas, j'essaie d'être objectif. On a
le football,
on a un mélange. On a un mélange.
Rapidement, moi je pense.
Et on a le coach aussi.
Non,
Tony,
je pense
que les deux.
Mais dans les deux camps, je pense que.
On a un coach avec nous, quoi.
Tes arguments, ils tiennent la route, comme les tiens tiennent la route. En fait, la seule vérité aujourd'hui, c'est le terrain. Et quand on voit le début de cette Coupe du Monde et où on en est aujourd'hui, je pense que ces deux équipes, qui aurait parié sur ces deux équipes en demi-finale?
Personne.
Ouais, peut-être. Non, c'est pas grand monde.
Ouais.
Donc aujourd'hui, celles sont là, c'est qu'il y a de la qualité.
Limite plus sur la Croatie que sur l'Angleterre.
Attendez,
c'est sûr.
Ouais. Les Croates. Karim Baldé, on l'écoute. Sur cette Croatie qui rencontrera l'Angleterre à J-2.
Alors.
Et s'il te plaît, l'énerve pas plus. Hein.
Oui,
Marion, tranquille.
J'essaye de peser mes mots.
Le bon karma.
J'essaye, tu vois, de pas.
Je me tais, t'inquiète pas.
Non, t'inquiète pas. Non, mais un petit mot sur la Croatie. Alors, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, quand même, le fait fait que physiquement il y a eu ces deux prolongations à chaque fois, et au-delà des prolongations c'est le fait qu'ils n'aient pas réussi à forcément trouver des solutions, notamment contre le Danemark par exemple, où dès que ça se fermait c'était un petit peu compliqué. Et contre la Russie par exemple, alors certes la Russie c'est la grosse surprise, c'était la grosse surprise plutôt de ce mondial, mais en prolongation par exemple le fait de prendre un but en prolongation alors qu'ils avaient, on pensait que Vida avait donné la victoire à la Croatie, c'est quand même preuve disons d'une certaine fragilité mentale, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais quand même j'ai envie de dire que la Croatie voilà elle montre ces signes de faiblesse là, alors contre l'Angleterre
l'Angleterre c'est pas la Belgique peut-être carrément, non
c'est pas le même style de jeu, enfin justement
ouais,
c'est
ce que rien à voir,
c'est que la Croatie aura beaucoup plus d'espace.
Demande à l'opposé.
Après, pour revenir au match contre la Russie est dans une dynamique exceptionnelle, presque irréelle.
Ah, surréaliste, oui. Ça, c'est sûr.
C'est les joueurs les plus décomplexés de la Coupe du Monde. Mm. Après, voilà, les nerfs et la concentration peut lâcher, surtout sur un coup de pied arrêté, comme ça a été le cas contre la Russie. Mais l'Angleterre est l'opposé d'un bloc bas, et ça va être complètement différent des deux matchs qu'ils ont eu à disputer. Donc, ils ont peut-être plus de chance et peut-être qu'ils auront moins de difficultés à marquer.
Ouais, mais il va falloir qu'ils n'aient plus ces sauts de concentration là, justement, parce que contre le Danemark, sauts de concentration la première minute, ils prennent un but.
Évidemment.
Et dans la prolongation,
c'est pas que c'est la meilleure équipe. Elle essaie de relativiser.
Alors qu'à l'inverse, justement, l'Angleterre, elle sait notamment sur les têtes, et on a vu contre la Suède justement à chaque fois tête et ça marque.
Merci Karim.
Voilà, au niveau de la concentration.
Marion, avant la pause, t'inquiète pas.
Si la France avait fait ce parcours, c'est-à-dire d'aller au tir au but contre le Danemark, puis contre la Russie, qu'est-ce qu'on entendrait, hein ? Franchement, hein ? Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième, je ne sais pas si vous avez vu cette information qui est sortie cet après-midi dans Bild et qui est ressortie dans Le Parisien.
Ouais.
Enfin, les Russes, leur petit secret, c'était l'ammoniaque à la mi-temps, on l'a pu le voir. Le médecin russe, d'ailleurs, de l'équipe l'a dit, l'a confirmé, puisque ça n'est pas finalement interdit, ça n'est pas vu comme du dopage, mais visiblement, ça paraît qu'on respire mieux, alors je me tourne vers le coach, hein, voilà, qu'on respire mieux quand on prend de l'ammoniaque. Non mais c'est très sérieux parce que vous pouvez regarder là tout de suite ces articles, et ça explique effectivement ce parcours, ce supplément d'âme de la Russie, et c'est vrai que ça a été
nouveau,
et c'est aussi pour ça effectivement qu'on a vu des choses étonnantes de la part de la Russie.
Fantastique en tout cas ce mondial en Russie, faut le rappeler, de magnifiques stades, Marion et Dallo.
Oui.
Justement, on va faire une courte page de pub. Courte pause.
Ah, t'es déstabilisé là.
Non. C'est Marion. C'est oui. C'est Marion et Mamad qui me font ça là. C'est pas bon. Chers auditeurs de Beurre FM, on fait une courte pause avant de revenir avec la large partie de Time Bleu, justement sur cette demi-finale à J-1 France-Belgique. À de suite.
Beurre FM, Beurre FM, 21h, 22h, Time Foot, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 21h38, on a parlé de la Croatie et aussi de l'Angleterre à J-2, ça sera la seconde demi-finale avant la fameuse finale en ce dimanche 15 juillet, juste après le 14 juillet, fête de
nationale
en France, excusez-moi. Oui, ça serait d'assurer si en fait l'équipe de France va en finale de la Coupe du Monde. On aura un double 14 juillet, même un triple, je crois. Et pour le lundi 16 juillet, non, mais ça serait un truc de fou, quoi.
Comme il y a 20 ans, effectivement.
Ouais,
il y a
ça, à peu près,
juillet,
c'est vrai.
Et après,
à
le
peu
14,
près.
La fête nationale.
Ouais, là, 14, 15, 16, c'est bon. On retrouvera Karim, à mon avis, sur les Champs-Élysées. Il dormira 3 jours de suite, hein. C'est ça, tout comme
il y a des chances, oui.
Mamadou, et moi compris. Place justement à ce France-Belgique, notre Time Bleu.
Time Foot, l'analyse.
Iyad, Karim, je me retourne vers vous. Giroud inefficace, faut-il s'en inquiéter ? Est-ce normal ? Karim ?
Faut-il s'en inquiéter ? Non, puisqu'on a d'autres armes offensives. Et Giroud fait un travail de l'ombre qui n'est pas forcément visible, on va dire, aux yeux des téléspectateurs, puisqu'il ne marque pas de but. Donc, si on retient que les stats, oui, Giroud, quelques tirs cadrés, pas de but, d'accord, c'est pas bien. Mais si on va au-delà de ça, on peut voir quand même que c'est un point d'appui essentiel. Et Deschamps, c'est pour ça qu'il le maintient coûte que coûte. C'est parce que justement, ils servent de point de fixation. C'est l'un des seuls joueurs grands, entre guillemets, en équipe de France, enfin, grand de taille, on va dire, notamment en attaque. Et du coup, il a un rôle un petit peu ingrat, c'est vrai, parce qu'il marque pas, mais il a un rôle toujours essentiel dans le système de Deschamps. Donc, tant qu'il a ce rôle-là, après tout, pourquoi pas continuer avec Giroud ?
Et Yadin, on t'écoute.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Giroud, on a bien vu qu'il s'est avéré primordial au fil de la Coupe du Monde. étant donné qu'on était beaucoup à vouloir une attaque Griezmann, Mbappé, Dembélé, on a bien vu qu'au niveau de l'organisation et des passes entre les trois, enfin il y a dans le match face aux États-Unis, je crois qu'ils s'échangent trois ballons contre l'Australie. Donc on a bien vu que ça ne pouvait pas marcher sans un pivot devant qui stabilisait les attaques. Donc bien sûr que Giroud est primordial et qu'il doit jouer la demi-finale, voire la finale pour l'équipe de France.
Marion, Lucas Giroud, un joueur monstre au sein de cette sélection, un
monstre,
pilier.
Monstre.
Ouais, mais quand même, c'est un joueur qui apporte.
Très utile. Important, voilà, un joueur
ouais,
utile.
Très utile, ouais.
Oui, oui, je ne ferai utile. Que paraphraser ce qu'ont dit ces messieurs. Et je suis absolument d'accord là-dessus et il ne faut pas s'inquiéter du fait qu'il n'est pas encore marqué durant cette compétition. Ça peut très bien se passer tranquillement demain. Tout à fait.
Ousmane Dembélé, son rôle est-il d'être un joker de luxe ou plus, Marion?
Ouais, joker de luxe, parce que pour l'instant, voilà. Tiens, voilà, un joueur, on dit toujours Mbappé, il doit prouver, il doit prouver, il doit prouver, puis il prouve, il prouve, il prouve. Dembélé, il doit vraiment prouver. Vraiment. Parce que, alors c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, il est tombé mauvais timing au Barça, il doit remplacer Neymar. Ouais, d'accord, bon, bah bonne chance à toi. En venant de Dortmund et en n'ayant pas à mon avis, le talent de Neymar. C'est un très bon joueur, c'est un très bel espoir du football français, on a de la chance de l'avoir, mais on a bien vu que durant cette Coupe du Monde, il n'a pas apporté autant que ce qu'on pouvait espérer. Donc, il est parfois mieux d'avoir un joueur moins bon, Giroud sans doute, mais qui a plus d'expérience et qui est un renard des surfaces. Ouais, un renard des surfaces quand il veut bien. Quand il veut bien.
Et puis, mais... sur la même chose, dès qu'il est critiqué, c'est là où il finit par marquer. Donc, ça s'est avéré.
C'est
pour
ça, exactement. C'est ça.
Donc,
mais sur Ousmane Dembélé, oui, je suis un petit peu déçu parce que je trouve qu'il n'est pas, pas exceptionnel. Ouais.
Ouais.
Pas
exceptionnel. Mamadou, Dembélé. Cette sélection des Bleus
est très très bonne. Elle oublie en plus, malheureusement pour lui, il a été blessé. Il est arrivé au Barça blessé. Il a repris, il s'est reblessé derrière. Et je pense que Deschamps, de toute façon, on a compris une chose. Deschamps, c'est le boss. Deschamps n'écoute personne. Il n'est pas là pour faire plaisir aux journalistes. Effectivement, tout le monde voulait voir aux journalistes ou à la majorité des Français qui voulaient voir Griezmann, Dembélé et Mbappé. Enfin, une majorité ou beaucoup de gens voulaient le voir, mais Deschamps c'est un pragmatique et Giroud a joué son rôle contre l'Uruguay exactement comme on voulait. Il allait se faire tamponner par Jiménez et par Godin. Il était là pour ça, il aime ça. Il aime le combat. C'est quelqu'un qui connaît les luttes de la Première Ligue depuis un moment. Et puis, il joue son rôle. Et puis, s'il est efficace. Efficace, si on demande l'efficacité, c'est pas forcément que d'aller marquer des buts. C'est peut-être aussi de donner des contraintes à ses défenseurs, de peser dessus. Et je pense qu'il sortira avec un sourire grand comme ça si, effectivement, il a marqué zéro but et que la France gagne la Coupe du Monde.
Ah oui,
ça,
il a dit en conférence de presse.
Parce que c'est un joueur qui joue pour le collectif. Et je pense qu'il est prêt à se sacrifier, à pas marquer de but, à pas sortir un meilleur buteur, mais voir la France qualifiée. Et il est verra, il n'emportera aucun ombrage à aucun de ses
collègues. Tony, justement, sur cette équipe de France.
Je rejoins.
On contrôlera les tables rouges.
Sur Giroud, effectivement, bon, quand on est spectateur, on regarde un match de football, on a tendance à regarder le ballon. Donc forcément, on regarde l'activité d'un joueur sur son activité en tant que joueur, mais avec la possession du ballon. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent de regarder un petit peu l'investissement d'un joueur sur son jeu sans ballon, sachant que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder un match de football, savoir qu'un joueur sur un terrain, il va toucher l'équivalent de entre 3 et 4 minutes le ballon sur 90 minutes de temps de jeu, et il reste quand même 87 minutes sans ballon. Donc que fait-il pendant ce temps-là? Et on oublie de le signaler, et je pense qu'il est très important à ce niveau-là, parce qu'il pèse énormément sur les défenses, il va imposer un jeu et du poids sur les défenses adverses, et ce qui va libérer des espaces ou servir d'appui effectivement pour nos milieux de terrain.
Courtois versus Loris, qui fait le meilleur mondial pour toi, Marion? Les deux gardiens, les deux portiers de cette sélection.
Pour moi, Courtois est meilleur que Loris. Je pense qu'il est le meilleur actuellement, étant donné que Neuer est blessé et que Buffon est un petit peu vieillissant.
Il est vraiment d'un grade au-dessus comparé à Loris.
Je trouve que Courtois est bien sûr, oui, bien meilleur. Ouais. Bien meilleur et moi, je le trouve extrêmement impressionnant. Mais la chance que la France a, c'est que il n'y a pas une défense très forte.
Oui, sélectionneur du côté.
Ouais, voilà, c'est que la Belgique a une défense faible, et j'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire qu'à part Compagnie, qui a l'expérience, mais qui n'a, selon moi, plus le niveau, quand on suit beaucoup City, on a vu un Compagnie extraordinaire ces dernières années, et puis cette saison assez moyen. Et puis, en l'absence de Thomas Meunier, qui est quand même pas le meilleur joueur du monde non plus, et qui sera effectivement pas là, eh bien, il y aura des remplaçants dans la ligne de défense. défense, elle est assez inquiétante, moi, je trouve, du côté de la Belgique. Donc, il faudra que Courtois, qui est génial, travaille un petit peu seul.
Il y a des réactions, justement. Et après, on aura aussi Karim.
Ouais, après, pour Courtois. Dire que Courtois est intrinsèquement meilleur
que Lloris,
non, je suis tout à fait d'accord.
Ah oui.
Après, les deux saisons se ressemblent pas mal. Les deux ont eu des difficultés, n'ont pas forcément brillé en club cette saison. Après, sur la Coupe du Monde, voilà, la Belgique a éliminé le Brésil, ce qui était selon moi la meilleure équipe avant de tomber. Donc, Courtois a réalisé une Coupe du Monde bien plus, enfin, un peu plus impressionnante que celle de Lloris. Après, pour en revenir à la Belgique et à sa défense, je pense pas que ça soit forcément les joueurs, même s'ils peuvent être remis en cause. C'est aussi le système belge, le fait de jouer en trois défenseurs et le fait que la Belgique mise tout sur le déséquilibre. Étant donné que la Belgique se veut très rapide, enfin veut mettre en place des attaques très rapides vers l'avant, avec des projections de Carrasco qui avait été placé défenseur gauche dans le milieu dans la défense à 3 et Meunier. Donc c'est plutôt le système qui est à mettre en cause plutôt que les joueurs qui intrinsèquement sont très très bons. Donc ça c'est surtout au niveau de la transition défensive qu'il va falloir être très solide, mais ils ont prouvé leur capacité d'adaptation, notamment face au Brésil, en se servant, enfin en apprenant la leçon contre le Japon. Et Roberto Martinez a su s'adapter en alignant Fellaini, Chadli, une équipe beaucoup plus équilibrée, parce qu'on avait l'impression qu'il voulait faire un peu plaisir à tout le monde, Roberto Martinez. Et contre le Brésil, il a joué vraiment en s'adaptant et en équilibrant son équipe pour qu'elle soit la meilleure possible et qu'elle trouve des failles dans la défense brésilienne.
Assez pertinent, Riyad. Marion.
Moi, c'est pas la défense à 3. Ouais, le problème, c'est les 3 joueurs. Encore une fois, si.
C'est le système.
Ouais, non, mais le système, il est pas mal. De toute façon, la défense à 3, c'est une défense à 5, en fait. Hein. La Belgique, si on regarde bien, c'est
bien sûr,
voilà.
Et donc,
oui, bien sûr, mais encore une fois, je parle de la valeur intrinsèque des joueurs en défense et au milieu. Je suis désolée, encore une fois, mettons-nous à la place des Belges. Fellaini, moi j'adore Fellaini, il est super sympa, c'est un joueur agréable, c'est un bon garçon vraiment. Mais attendez, enfin, je sais pas si vous avez vu les dernières saisons de Fellaini quand même, c'est pas fabuleux. Non mais de loin, enfin nous on a quand même Varane du Real, Umtiti du Barça. Ouais. Quand même, voilà, c'est pas voilà.
Si on avait la défense De Bruyne et aussi Hazard.
Oui.
Rien à voir hein.
Mais devant c'est exceptionnel la Belgique. Ouais. Là il y a même pas à discuter,
ouais.
C'est
en
fabuleux.
Défense, c'est vrai.
C'est fabuleux. Mais en défense et au milieu, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que si on avait cette défense là nous en France, est-ce qu'on serait content? Je pense pas.
Non. Non, c'est vrai que c'est une faiblesse. Alors, je suis d'accord avec tous les deux, avec vous deux, en fait, sur ça. D'un côté, sur le déséquilibre, un petit peu contre-inforcé. Je pense que ce déséquilibre, il a d'autant plus assumé que justement, effectivement, devant, c'est hyper fort, on l'a dit. Et derrière, voilà, il y a quand même des failles, c'est quand même relativement.
Le Japon en met deux, quand même.
Le Japon en met deux. Et derrière, c'est relativement faiblard. Et pour revenir sur le débat des gardiens, Courtois versus.
Lloris.
Courtois, on dit qu'il est meilleur parce qu'il a eu plus à s'employer, justement. Même contre le Brésil, il a fait quand même un certain. Ou ne ferait, je sais plus. Bref, il a fait un certain nombre d'arrêts, alors que Lloris, finalement, comme il a une arrière-garde quand même solide devant, certes, les adversaires étaient moins forts côté pour les matchs des Bleus, mais quand même, Lloris a moins eu à s'exprimer. Il l'a fait
c'est
au bon
sûr.
Moment.
Je suis d'accord.
Il l'a fait au bon moment. La parade devant Caceres,
mais
par
contre, toi, un niveau déçu. Quand même.
J'ai cru qu'on n'allait pas en parler.
Face à Lloris.
J'ai eu peur.
Pas parler de quoi
de la parade de
Lloris. Ah,
il y a plein de choses à faire, comme tu dis, mais quand il a fallu les faire, excuse-moi, Karim, il les a faites.
Avec l'aide de Godin, on oublie quand même que derrière l'arrêt de Lloris.
Il a cru qu'il était en défense.
Il y a Godin qui a cru que. Voilà. Ouais. Moi, j'ai dit, il est devenu français.
Non, voyez,
mais la parade était là.
Il a fait la parade. Ouais. Il a fait la parade.
Et il se relève vite. Et en plus, il fait la parade et il se relève très vite, surtout. Et il l'a dit au micro de TF1, je crois, Lloris, après le match, en disant que ce qui était le plus fort, c'est pas tant la parade qu'il fait, la claquette, c'est plutôt le fait qu'il se relève très vite et que du coup, Godin l'envoie dans les nuages.
Oui, merci. Merci, Godin, merveilleux.
Mamadou, t'écoutes.
J'ai un petit fait pour Lloris. Alors, je suis pas en train de donner les qualités de. Je suis pas en train de mettre en perspective les qualités de Lloris par rapport à celles de Courtois, mais Lloris fait partie de ces joueurs qui à un moment donné aussi ont été pointus du doigt comme Varane. À un moment donné on a estimé qu'ils étaient en dessous de leur niveau et le match où
et
il
Varane,
fallait
on l'annonce Ballon d'Or. Je rigole pas.
Mais il faudrait que
Bilal. Et Saïd Hamdal a dit dans cette émission non mais je tiens à le rappeler. Et je suis devenu fou parce que les confrères de la Sky ont mentionné Varane pourquoi pas Ballon d'Or.
Je suis sérieux. Pour finir, je vais laisser la parole à Tony après. Souviens-toi, il y a début de semaine de Coupe du Monde, on a montré du doigt Varane, on a montré du doigt Lloris, on a montré du doigt certains joueurs, Griezmann, Et pourtant, ces joueurs-là ont répondu présent au moment où il fallait. Donc maintenant, si juste pour refaire la comparaison avec Courtois, je trouve que malgré tout, Lloris fait une très très bonne Coupe du Monde, une excellente Coupe du Monde. Et au-dessus du niveau qu'on pouvait l'attendre, mais il est présent.
On termine avec Tony avant la pause, la dernière.
Rapidement, bon, moi je pense que la France, bon, elle monte en puissance, surtout avec les individualités aujourd'hui qu'elle a. On a vu Mbappé qui, fur et à mesure, il s'est émancipé, il s'est lâché. Et ça fait beaucoup de bien à l'équipe. Dembélé aussi, par ses rentrées, fait beaucoup de bien. On a un Kanté exceptionnel. Un cran juste en dessous, mais qui est quand même omniprésent dans tous ses déplacements, tout son investissement sur le plan offensif, c'est Griezmann, même si effectivement sur sa frappe, il a de la chance. Après, pour parler de la Belgique, je pense que c'est une équipe qui est vraiment montée en puissance, comme face au Japon, parce qu'il faut être capable de revenir à 2-0 et en mettre 3. Et elle a quand même battu le Brésil, qui est comme un prétendant à la Coupe du Monde. Donc pour moi, elle brille par son collectif. C'est une équipe qui est plutôt rationnelle, qui est bien structurée, qui respecte les tâches. Sur chaque ligne, il y a de la compétence. On voit des joueurs quand même qui sont capables d'apporter un plus. Parce que l'équipe, elle est assez élastique en fait. Parce que je trouve que bon, les joueurs, ils permutent bien. Mmh. Sachant que quand on parle du 3-5-2, il faut avoir des ailiers qui sont en capacité d'attaquer et de défendre. Donc ça demande des efforts conséquents. Et sachant qu'on a des attaquants qui sont capables de dézoner, de revenir défendre en étant en bloc. Donc c'est un gros travail aussi. Donc avec la qualité technique qu'ils ont et le coffre athlétique qu'ils ont aussi, je pense qu'on va avoir un beau match. Et c'est deux équipes qui sont quand même relativement équilibrées. Et je pense que je suis pour la France malgré tout.
On espère.
On a eu peur. Ouais.
Chers auditeurs, de Beurre FM, vous restez avec nous. On va faire passer juste après la dernière pause Karim de Lyon qui aimerait réagir justement sur cette demi-finale, sur le France-Belgique au 01-53-48-3000. À de suite.
Time Foot. Reviens dans un instant. Beurre FM. 21h-22h. Time Foot avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 21h54, on est ensemble, c'est la dernière partie de Time Foot, on le rappelle, Time Foot c'est du lundi au vendredi, même durant cette dernière semaine de Mondial, 21h, 22h le samedi, 18h, 20h. On n'oublie pas qu'on vous fait gagner le maillot de l'équipe de France jusqu'à la fin de cette émission, vous pouvez essayer de le remporter avec le hashtag Time Foot en followant le compte officiel de l'émission. Le standard c'est le 01-53-48-3000 et il est à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, Mario Aïda, le journaliste sportif avec nous, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, je le rappelle aussi, il y a de Cascade et Celtips sur la Twittosphère, Karim Baldé, journaliste chez TV5 Monde et sans oublier Tony Nocetti, coach U19 féminine au Paris Saint-Germain. Justement, au 01-53-48-3000, on va retrouver Karim Delian qui aimerait réagir sur l'équipe de France et aussi les Diables Rouges, la Belgique. La chance, on vous la donne.
Ouais, la chance. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, Karim.
Bonjour, j'ai un peu subi tout ce que vous disiez.
Ouais.
Au niveau de la rencontre de la Belgique et de la France.
Bien sûr.
Aussi l'élimination du Brésil. Moi, je voudrais dire qu'il y a un aspect très important qu'on peut pas voir comme ça et tout. On peut rentrer dans les détails, par exemple, des attaquants. Est-ce que les attaquants français valent mieux que se dépêchent? Est-ce que la défense? Est-ce que le gardien? Je dirais que sur les gardiens et tout, Courtois, moi, il m'impressionne pas. Vous savez pourquoi? Il a une grande taille, mais sur les balles à terre, nettement moins bon que Lloris sur les balles à terre. Après, je reviens sur le match. Il y a un aspect qui est très important. C'est l'aspect, on va dire, l'ascendant psychologique. L'ascendant psychologique et tout, c'est quand vous rentrez sur le terrain, vous voyez chez votre adversaire, vous êtes tout de suite, vous devinez mentalement si l'adversaire est à votre portée, vous allez battre. Et moi, quand j'ai vu rentrer l'équipe du Brésil, j'ai tout de suite vu que c'était des poules mouillées.
Carrément, carrément.
Bah oui, c'était des poules mouillées, En plus, vous savez ce qu'ils ont fait?
Oui.
Ils ont attaqué cette équipe belge. Ils n'ont rien osé. Ils n'ont rien osé en face d'elle. Après, ils ont laissé des autoroutes à De Bruyne et à comment il s'appelle, leur attaquant là. Le plus connu là.
Lukaku.
Eden Hazard,
pour vous.
Eden Hazard et Lukaku, je dis, mais ils ont eu des autoroutes.
Bingo.
Moi, là où je dis que la France, elle va gagner, c'est parce que l'équipe de France, elle a nettement moins à galérer pour gagner ses matchs. Elle a une organisation dans le jeu qui est nettement supérieure à la Belgique parce qu'elle ne laisse pas beaucoup d'espace. Et donc, les Belges ne pourront pas faire le jeu qu'ils ont fait contre le Brésil. D'ailleurs, on l'a vu contre les Japonais à quelques secondes. Si le gardien ne leur fait pas un cadeau, ils sortent de cette Coupe du Monde. Donc, moi, je dis d'un ascendant psychologique de l'équipe de France,
ouais.
Et les Belges ne seront pas capables de jouer dans les petits espaces. Jusqu'à maintenant, ils ont agi. D'ailleurs, le but qu'ils mettent aux Japonais, ils le mettent sur une contre-attaque. Si les Japonais restent en place, jamais ça se passe comme ça.
Un pronostic, Karim, avant de nous quitter.
Un pronostic, je dis que les Belges vont prendre 2-0.
Ouais.
2-0, 2-1. Mais en tout cas, ils vont se casser les dents. Parce que je dis que les Belges, et tout, ils n'ont pas le jeu, j'allais dire. L'équipe de France, elle a un jeu qui est régulier, constant,
avec
beaucoup de présence. Et l'équipe belge, elle agit sur des contres, sur des à-coups. Et je ne la sens pas du tout déstabiliser l'équipe de France, qui est bien en place et qui a moins galéré. Et quand on compare Courtois à Lloris, je dirais simplement à la personne qui a dit ça, bien sûr, Lloris, il a eu beaucoup moins d'interventions à faire. Les seuls qu'il a eu, il a sorti le ballon. Donc, on ne peut pas dire que Courtois, il a été meilleur que lui.
Merci, Pierre Monim.
Il a beaucoup plus de sauvetage.
Merci Karim pour cette large réaction sur l'antenne de Beurre FM, le 0153483000. Vous faites comme Karim pour réagir dans cette émission. Justement, une réaction avec Marion. On t'écoute, Marion, avant les pronostics de tous les consultants.
Je voudrais revenir juste deux secondes sur ce qui a été
rapide.
Dit sur le Brésil rapidement. Je me demande si on les aime bien finalement ces Brésiliens, parce que ce soit en Ligue 1 ou là pendant la Coupe du Monde, on adore dire que ils ont pas de mental, que finalement ils sont pas aussi forts que ça, que Neymar ceci, que Thiago Silva cela. Et je suis quand même en train de me demander si finalement on aime vraiment les Brésiliens. C'est une question que je me posais comme ça. Ça c'est la première chose.
Je vais t'aider, Marion. Oui. Je vais t'aider. Il y a un complexe.
Rapide, messieurs, dames.
Les Français font un complexe par rapport aux Brésiliens. Moi,
c'est possible. Ben, c'est possible. Alors concernant la Belgique et la France, oui, je pense que la France est plus homogène. Je pense que la France est meilleure et je pense que la France, si elle déconne pas trop, peut passer facilement.
On va voir les consultants, les pronostics. France-Belgique avec Karim Baldé.
Je suis d'accord avec mon homonyme et avec Marion, du coup, victoire de la France sans prolongation à mon avis.
Yad Kaski, pronostic.
La France avec les deux équipes qui marquent.
Ouais. Marion et Dallon, on t'écoute, le prono pour toi. France-Belgique demain, demi-finale, la première de ce mondial en Russie.
Bah, il va y avoir des buts, je vais dire 3-1 ou 3-2 pour la France.
3-1, 3-2 pour Marion Aïdalo. Mamadou.
2-1, allez.
2-1 pour Marion. Mamadou, la mine manée, on t'écoute.
2-0 pour la France.
2-0 pour la France et pour Tony.
Je dirais 2-1 également.
2-1 également. En tout cas, on se donne rendez-vous, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM. Demain, à partir de 21h jusqu'à 22h, on reviendra sur le match complet de cette fameuse équipe de France, mais aussi face au Diable Rouge avec un adjoint comme entraîneur, Titi Henry, on vous le promet. On n'oublie pas, vous avez le temps. Eh bien, non, c'est la fin. On va donner le grand gagnant sur la twittosphère de ce maillot de l'équipe de France. Et nous, on vous dit très belle soirée sur l'antenne de Beurre FM en compagnie de Vanessa. Bye bye.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 21h à 22h.